Une vie, une œuvre. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour une émission consacrée à Victor Hugo. Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon et meurt le 22 mai 1885 à Paris. Personnalité politique et intellectuelle qui a compté dans l'histoire du 19e siècle, connue notamment pour ses deux grands succès, Notre-Dame de Paris et surtout Les Misérables. Son œuvre multiple a fortement contribué à renouveler les genres et comprend également des discours politiques sur la peine de mort, l'école ou l'Europe, des récits de voyage et une abondante correspondance. Ses choix, à la fois moraux et politiques, et son œuvre hors du commun, ont fait de lui un personnage emblématique que la Troisième République a honoré à sa mort par des funérailles nationales, accompagnant sa dépouille au Panthéon le 31 mai 1885.
C'est Lucrèce Borgia.
Nous vivons dans une époque où les gens accomplissent tant d'actions horribles qu'on ne parle plus de celles-là. Mais certes, il n'y eut jamais événement plus sinistre et plus mystérieux.
Le rêve de tous les romantiques était de conquérir le théâtre français. Parce que le théâtre français, c'était quand même le bastion du pouvoir. Dans les années 20, il dit que l'avenir est du côté des valeurs monarchiques et catholiques. Et puis, il définit une mission sociale du poète, d'être d'abord compatissant et d'apporter au peuple la vérité qu'apporte le prophète, de révéler. Le poète est un prophète.
Il y a quelque chose de constructif chez lui, mais une construction qui n'est pas édifiante. Il construit des problèmes.
Du montage, quoi.
C'est ça, le montage, le bricolage. C'est un bricoleur. Il a une conception bricolée de la démocratie, n'est-ce pas ? C'est une entreprise permanente de réfection, n'est-ce pas ? Il faut la refaire sans cesse. C'est une barricade. Il y a quelque chose d'insurrectionnel chez lui, hein ? C'est l'insurgé.
Victor Hugo, l'insurgé, Baylis Besri, Guillaume Baldi.
Il est victime, si vous voulez, d'incroyables médisances. C'était absolument effrayant. Il est à la fois terriblement exalté, n'est-ce pas, comme figure patriotique, etc. Et en même temps, il est dénigré de manière effrayante.
Your attention, please. We have now arrived in Guernsey. On behalf of Captain Grant and the crew of Cold the Rapid, we thank you for traveling with us today and wish you a very safe and pleasant onward journey. The local time in Guernsey is now 10 o'clock. Thank you, and we wish you a very nice day.
Moi, je pense que Victor Hugo prend réellement sa dimension et prend aussi conscience de l'image qu'il veut représenter, du personnage qu'il veut investir à partir de 1851. Jusque-là, il ne faut pas rêver. Hugo, il est quoi ? Sous la monarchie de Juillet, Hugo, il est très vite rallié à la monarchie de Juillet et il est quand même l'ami du roi. Si vous lisez Chose vue, en 1844, il est tout le temps dans le salon du roi, que ce soit aux Tuileries ou à Neuilly. Et c'est d'ailleurs passionnant ce qu'il raconte, ce que Louis-Philippe lui raconte sur des choses étonnantes d'ailleurs, sur les conseils des ministres, sur comment étaient les gens en Angleterre, enfin les dirigeants en Angleterre. C'est étrange, comme il est proche du roi. On n'imagine pas ça avec l'image qu'il a sous la Troisième République, surtout quand il rentre d'exil, enfin... cette passion autour, ce qu'il représente, mais je pense qu'il prend sa mesure en fait en exil, Victor Hugo.
Bonjour. Quelle bonne idée vous avez eue de venir aujourd'hui. Exactement les mêmes circonstances que lorsque Hugo est arrivé. Il pleuvait, il y avait du vent, exactement pareil. Évidemment, il n'est pas arrivé par ici. Donc, ce qu'on a pensé faire, c'est vous emmener en voiture là où il a débarqué, et depuis là-bas, on pourra continuer à pied. Ça me paraît être la meilleure solution, vu le temps qu'il fait.
Moi, je suis frappée par la prise de conscience du bénéfice qu'il peut tirer de l'exil. Bon, il a certainement eu raison, parce que c'était la manière de tailler son personnage. Mais enfin, quand on voit ces photos sublimes, d'ailleurs, de lui face à la mer, sur le rocher, les photos merveilleuses qu'ont fait ses fils. Mais on se dit, quand même, tout le monde l'a payé cher autour de lui.
On a very similar day to this in October. Un jour très semblable à celui-ci, en octobre, à la fin du mois d'octobre 1855, un bateau provenant de Jersey est arrivé ici. Il n'y avait pas de port, et le bateau est arrivé directement par le sud-ouest. Mais il n'y avait pas de quai auquel le bateau pouvait amarrer. Donc, ce qui se passait, c'est que tout devait être déchargé sur une barque qui permettait de rejoindre la côte. Parfois, il n'y avait pas assez d'eau. La barque devait être portée avec les gens à l'intérieur pour qu'ils ne se mouillent pas les pieds. Ce qui se passa également ici, c'est que Hugo est arrivé avec son fils François-Victor et une grande malle très lourde qui contenait tous ses manuscrits. Et il écrivait énormément. Ça l'inquiétait beaucoup de transporter cette malle parce que si elle était passée par-dessus bord, tous ses manuscrits auraient été perdus pour toujours. Mais bon, par chance, il a réussi et ses manuscrits ont été rapportés jusqu'au rivage. Il a rapporté qu'il y avait beaucoup de monde lors de son arrivée, bien sûr. Car à cette époque, il y avait peu de bateaux qui débarquaient avec des passagers, et donc les gens venaient juste pour voir s'il y avait des passagers connus dans le lot. Je ne suis pas tellement persuadé qu'Hugo était connu à Guernesey à ce moment-là. Si les autorités avaient eu vent de ce qui s'était passé à Jersey, il n'aurait sûrement pas été le bienvenu. Il aurait été renvoyé par le premier bateau. Mais on est tous un peu dans la lune à Guernesey, et ils n'ont probablement pas réalisé à qui ils avaient affaire, et ils l'ont autorisé à rester.
Napoléon dans la bataille, grave et serein, guidait à travers la mitraille l'aigle des reins. Il entra sur le pont d'Arcole, il en sortit. Voici de l'or, viens, pille et vole, petit petit.
Charles-Louis Napoléon Bonaparte, né à Paris le 20 avril 1808, est fils d'Hortense de Beauharnais, marié par l'empereur à Louis-Napoléon, roi de Hollande.
Napoléon le Petit, biographie.
Il acclama la République, vint siéger comme représentant du peuple à l'Assemblée constituante, monta à la tribune le 21 septembre 1848 et dit « Toute ma vie sera consacrée à l'affermissement de la République ». Fut élu président par 5 500 000 voix, jura solennellement la Constitution le 20 décembre 1848 et, le 2 décembre 1851, la brisa. Dans l'intervalle, il avait détruit la République romaine et restauré en 1849 cette papauté qu'il voulait jeter bas en 1831. Le 2 décembre et les jours suivants, il a, lui, pouvoir exécutif, attenté au pouvoir législatif, arrêté les représentants, chassé l'Assemblée, dissous le Conseil d'État, expulsé la Haute Cour de justice, supprimé les lois, pris 25 millions à la banque, gorgé l'armée d'or, mitraillé Paris, terrorisé la France. Depuis, il a proscrit 84 représentants du peuple, déporté en Afrique et à Cayenne 10 000 démocrates, exilé en Belgique, en Espagne, en Piémont, en Suisse et en Angleterre 40 000 républicains, mis dans toutes les âmes le deuil et sur tous les fronts la rougeur.
Agnès Péry, quand Victor Hugo est arrivé ici à Guernesey, il venait de passer trois ans à Jersey,
oui, en exil avec sa famille. Et il y avait une petite communauté de proscrits à Jersey également. Et il s'est fait expulser de Jersey, donc assez rapidement qu'il a eu il a fallu qu'il s'organise pour quitter l'île précipitamment. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Guernesey à la fin du mois d'octobre 1855, un jour où il faisait très très mauvais temps, effectivement. La mer était déchaînée, il pleuvait des cordes. La traversée de Jersey en bateau à vapeur était un peu difficile. Et quand ils ont déchargé le bateau à vapeur, donc des bagages, pour mettre cette malle qui contenait les écrits de Victor Hugo sur la chaloupe, ils ont failli perdre cette malle par-dessus bord, qui aurait été perdue à jamais au fond de la mer, dans le port de Saint-Peter-Port.
Guernsey was mainly French speaking.
À l'époque, on parlait surtout français à Guernesey, et ce depuis très longtemps. Il ne s'est donc pas senti étranger ici.
Alors, quelle est la prochaine étape ?
Maintenant, on va aller voir l'hôtel de l'Europe, tout à fait hugolien. Il aimait beaucoup l'idée d'une Europe unifiée. Donc, on va aller le voir, et ensuite, on va monter jusqu'à l'église de la ville qui figure dans les travailleurs de la mer.
Au moment où il est arrivé ici, Agnès Péry, Victor Hugo entame aussi ses poèmes politiques. Il a achevé son pamphlet sur Napoléon III. Et ce sont aussi tous ces poèmes politiques et les châtiments qui vont être écrits.
Oui, bien sûr. Victor Hugo saisit cette période d'exil comme une opportunité pour être créatif. Bien sûr, au niveau de ses écrits politique, mais aussi ses romans qui illustrent les conditions sociales de l'époque. Et puis, il va aussi dessiner, beaucoup dessiner pendant son exil, et aussi s'engager donc, dans la vie courante de l'endroit où il vit, et en particulier donc agir pour appliquer les principes qui lui tiennent à cœur, comme par exemple organiser des ventes de charité pour récolter des fonds, pour créer une crèche, organiser des repas hebdomadaires pour les enfants pauvres. Dès que sa maison est aménagée, il invite des enfants pauvres à dîner chez lui une fois par semaine, et c'est lui qui fait le service avec les membres de sa famille. Il veut vraiment mettre en pratique les idées qu'il défend.
He thought he was going to leave France for life.
Il pensait qu'il avait quitté la France pour toujours, et il ne savait pas ce qu'il allait faire. Pendant qu'il faisait la traversée entre Jersey et Guernesey, son fils, François-Victor, et lui ont parlé de ça. Il a demandé à son fils, « Que vas-tu faire ?» Il a répondu qu'il allait traduire l'œuvre de Shakespeare en français. Et Hugo a dit, « Moi, je vais étudier l'océan. » Et on peut dire qu'il l'a fait, n'est-ce pas ?
L'Atlantique ronge nos côtes. La pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest. La muraille que nous avons sur la mer est minée de Saint-Valery-sur-Somme à Igneville. De vastes blocs s'écroulent, l'eau roule des nuages de galets, nos ports sans sable ou sans pierre, l'embouchure de nos fleuves se barre. Chaque jour, un pan de la terre normande se détache et disparaît sous le flot. Ce prodigieux travail, aujourd'hui ralenti, a été terrible. Il a fallu pour le contenir cet éperon immense, le Finistère. Qu'on juge de la force du flux polaire et de la violence de cet affouillement par le creux qu'il a fait entre Cherbourg et Brest. Cette formation du golfe de la Manche aux dépens du sol français est antérieure aux temps historiques. La dernière voie de fait décisive de l'océan sur notre côte a pourtant date certaine. En 709, 60 ans avant l'avènement de Charlemagne, un coup de mer a détaché Jersey de la France. D'autres sommets des terres antérieurement submergées sont, comme Jersey, visibles. Ces pointes qui sortent de l'eau sont des îles. C'est ce qu'on nomme l'archipel normand.
Il y a d'autres engagements que l'on connaît moins de Victor Hugo, qui sont liés aussi aux égouts, à ce que l'on fait des déchets, qui sont des questions assez innovantes pour son époque.
On a alors, évidemment la réflexion sur l'utilisation des déchets, le recyclage très important. Alors ça fait une partie énorme dans Les Misérables, le fameux intestin du Léviathan qui décrit les égouts de Paris, mais qui ne les décrit pas uniquement, qui explique comment on perd une telle richesse alors qu'on pourrait l'utiliser, l'exploiter, etc. De même qu'on trouve des textes assez scientifiques, connu, hein, dans les marges de ce qu'il a écrit pour les Travailleurs de la mer, et qu'il n'a pas publié dans les Travailleurs de la mer finalement, des textes sur les ouragans, sur les tempêtes, sur le vent, sur l'écologie, et qui sont des textes d'une grande acuité et d'une grande actualité.
Dans les grandes thématiques que l'on retrouve, des grands engagements politiques, il y a la question des questions sociales, on dirait pour, au sens large du terme, des questions en faveur de la, des prises de position en faveur de la liberté d'expression, mais aussi de la condamnation de la peine de mort. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces grandes thématiques et la manière dont il a pu les porter dans ses discours ?
La plus ancienne, c'est celle contre la peine de mort, qui commence. Le fameux dernier jour d'un condamné, c'est en 1829, donc il est quand même jeune, il a 27 ans. Et là, il ne variera plus du tout. Donc, dès les années 30 jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours combattu la peine de mort inlassablement, à chaque cas particulier, en France, à Paris, en France et à l'étranger, dans le monde entier. Il est intervenu. Donc, c'est vraiment son combat le plus ancien. Et sa sensibilité, comme vous avez dit, aux questions sociales, hein, la question ouvrière, la question de la misère, de la pauvreté, tout ça, ça fait partie de cette complexe question sociale. Son premier ouvrage qui montre qu'il s'y intéresse de près, c'est Claude Gueux, petite nouvelle qui sera, si on peut dire, développée dans Les Misérables, mais qui est publiée en 34, donc on est au début de la Monarchie de Juillet. C'est toujours, il fait remonter, lui, à 34, donc au début des années 30, son engagement social et politique.
Qui relie d'ailleurs à la fois la question de la condition matérielle, la condition d'existence, mais aussi qui est relié au crime et
à la question de la pénalité,
absolument, et relié aussi à l'école, l'instruction.
Exactement. Pour lui, l'éducation doit être laïque, obligatoire. C'est vraiment la clé de sa pensée à cette époque-là, hein, rendre l'éducation laïque obligatoire pour tous. Pour lui, c'est l'idée que ça va résoudre les problèmes de criminalité.
Le huitième coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases, deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et, entre ces deux questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il manqué? Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution encore à trouver donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature.
À travers le choix de la description du monde dans les sujets de Victor Hugo et notamment dans son entreprise poétique et romanesque, est-ce qu'on peut parler d'une écriture poétique politique ?
C'est très bien parce que c'est évidemment comme ça qu'il écrit. Sa prose est extrêmement poétique. Hein. C'est pas pour rien qu'il a eu Chateaubriand comme modèle. Et quelquefois, c'est ce qui plaisait pas à des gens comme Baudelaire ou Flaubert, par exemple. Mais il disait pas que c'était poétique et politique. Il disait que le côté politique était un côté didactique, hein, voire pédagogique, qui trouvait ça désagréable. Ces démonstrations d'ambition politique ou d'idées politiques dans les livres. À mon avis, c'est plutôt un faux procès. Mais c'est vrai qu'il avait une très haute ambition pour la littérature et qu'il n'écrivait pas pour uniquement, en tous les cas, pour la distraction de ses lecteurs. Son ambition, c'était là une véritable ambition politique dans la littérature même, c'était que Les Misérables devaient, c'était un livre où les gens devaient apprendre à lire, mais apprendre à penser aussi. C'est l'époque où Michelet écrit la Bible de l'humanité, mais il y a dans Les Misérables l'ambition d'être une Bible pour l'humanité aussi.
Dans les travaux de Victor Hugo, il y a aussi un travail documentaire d'une certaine manière. Il est aussi allé se renseigner sur la condition justement d'un certain nombre de ses semblables. Il y a eu ce travail qu'on a connu aussi chez Dickens en Angleterre, qui était de la volonté de savoir, de renseigner aussi la population sur les conditions de vie. Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une démarche politique et poétique, Jean-Marc Ovas ?
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il utilise aussi les enquêtes qu'il a menées lui-même comme homme politique. Sous la Deuxième République, il est allé enquêter dans les caves de Lille où s'entassait une population miséreuse qui mourait au travail en vivant à 5 ou 7 ou 8 ou 10 personnes dans des caves minuscules, dans des conditions atroces. Il va voir ça avec l'économiste Blanqui. il revient à Paris à l'Assemblée, il fait son discours en expliquant ce qu'il a vu. C'est une démarche très moderne finalement, et tout cela, il l'utilise aussi dans ses romans. À la réception des Misérables, il y a eu énormément, il y a eu des textes de juristes, des textes d'économistes, il y a eu des textes de tout le monde, mais le roman était effectivement commenté comme si ça avait été un texte politique par bien des aspects.
La maison de ville, elle est
un petit peu plus loin.
Ouais. C'est sur cette rue-là?
Voilà. Oui, c'est un prolongement de cette rue.
Un prolongement de cette rue.
Ok, a little more.
All right.
Dans cette maison-là, à notre droite, qui a un pignon arrondi, c'est là que se trouvait le coiffeur et barbier de Victor Hugo.
Vous évoquez la barbe, oui, la mutation physique,
la barbe,
en général.
Voilà.
Elle fait partie de cette période de l'exil, de cette transition,
oui,
aussi politique.
Oui, si l'on veut, mais il s'est fait pousser la barbe qu'à partir de 1861, sur la recommandation de son médecin, pour protéger sa gorge et pour qu'il ait moins de problèmes de santé, paraît-il. Quand il est arrivé à Guernesey, il avait la cinquantaine et il n'avait pas encore la barbe. Alors il avait des barbiers qu'il allait voir régulièrement et celui-ci s'appelait Monsieur Blick. Et donc il avait ses habitudes chez Monsieur Blick et entre autres il tenait à ce que quand on lui coupait les cheveux, ses cheveux soient brûlés immédiatement sur place et que ses poils de barbe, on les ramasse et qu'on les mette dans un petit sachet pour qu'il en dispose lui-même.
Qu'est-ce qu'il en faisait ?
Alors on ne sait pas, on pense que certains cheveux ou poils de barbe pouvaient être donnés à Juliette, sa maîtresse, pour qu'elle les mette sous son oreiller. Mais en fait, je pense que c'est peut-être aussi pour ne pas que l'on fasse commerce de ces reliques de Victor Hugo. Parce qu'il était quand même quelqu'un de très connu à l'époque et de très respecté au niveau international. Et donc, il ne voulait pas que les gens se fassent de l'argent sur son dos, derrière son dos. Ça me fait penser à une anecdote. Il y avait à Saint-Pieterport un monsieur qui devait avoir à peu près la corpulence et l'âge de Victor Hugo et qui parlait aux touristes prétendant être Victor Hugo. Bien sûr, les gens d'ici savaient très bien qu'il ne s'agissait pas du grand homme et ils l'ont signalé aux autorités. Cet homme s'est fait arrêter. Eh bien, il a dit, pour se justifier, qu'en fait, il rendait service à M. Hugo, puisque M. Hugo, forcément, n'aurait pas le temps de parler à tous ces touristes et de signer des autographes contre une petite pièce, bien sûr. Donc voilà, et lui, c'était pour les relations publiques de Victor Hugo, en fait.
C'est le sosie officiel.
Oui, il s'était déclaré comme tel, en tout cas. There's one in Belvin Street. And is there one?
The one that did Les Mis. So the first thing that happened to him is he came to.
Donc au tout début, il a vécu numéro 20, là où nous arrivons, maison qu'il a louée son arrivée pendant environ 2 ans.
Il a ensuite acheté sa maison avec l'argent des contemplations.
Oui, il était pauvre lorsqu'il a quitté Jersey et quand il est arrivé ici, il est devenu riche. C'est le cas de beaucoup de monde ici.
So here we are, number 20.
Nous y voilà, au numéro 20.
And, they moved into this,
ils ont habité dans cette maison pendant un temps, lorsqu'il a acheté la maison quelques mètres plus haut.
And, in fact, at a later date, he bought,
plus tard, il a également acheté cette maison pour sa maîtresse.
The house is now very well kept.
La maison est très bien conservée, mais il ne reste rien d'époque à l'intérieur. Ça y est, on y arrive.
Il paraît qu'il y a toute une histoire de mouchoirs du matin à Niasperi.
Oui, c'est exact. Quand Victor était réveillé, il avait l'habitude de mettre au balcon ce qu'ils appelaient le torchon pour indiquer à Juliette qu'effectivement, ça y est, il était levé. Et donc Juliette était rassurée de savoir que Victor était debout. Et Victor Hugo donc se levait très tôt. Il avalait des œufs crus et du café noir. Et ensuite, il se mettait au travail. Il travaillait essentiellement toute la matinée. Et ensuite, il faisait ses ablutions sur le balcon. Et les passants pouvaient quelquefois apercevoir Victor Hugo sur son balcon, en train de se laver. Et ensuite, il descendait manger le repas de midi. Et l'après-midi, c'était consacré soit aux travaux de la maison, aux rencontres, etc.
Le parapluie ne survit pas. C'est retourné. Oh,
that's it. There we are.
Wait, wait. Coming.
La relation avec Juliette Drouet a duré toute une vie parce que Juliette l'a bien voulu. Heureusement qu'elle l'a suivi en exil, parce que c'est quand même elle qui a sauvé ses manuscrits. Et ils ont rangé les manuscrits, ils en ont fait une malle, et il a pris le train pour Bruxelles le 11, elle est partie le 13 avec la malle. Et sans ça, que seraient devenus les manuscrits? On ne sait pas. Donc heureusement qu'elle était là. Et Adèle, l'épouse qui à l'époque est très venimeuse contre Juliette, se fait tout de même rappeler à l'ordre, parce que Victor Hugo lui écrit, Victor Hugo écrit à sa femme, mais tout de même, elle m'a sauvée et il faut tout de même reconnaître ce qu'elle a fait pour moi. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est quand on lit l'œuvre d'Hugo et tout ce qu'il dit des femmes. Et Juliette, elle lui écrit des choses intéressantes, parce qu'elle lui écrit d'un côté des lettres d'amour fous, 20 000 lettres donc, mais aussi, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, moi qui étais tombée dans la fange, tu m'as rendu sublime, tu m'as ressourcé, tu m'as régénéré. Par ailleurs, elle lui écrivait, je ne suis plus qu'un chien, à côté de son écuelle, tu m'as enfermée, parce que tout de même pendant 12 ans elle n'a pas pu sortir seule, faut pas oublier ça, et qu'elle avait même perdu le goût de la rue, c'est ce qu'elle dit la fois où elle sort, elle sait plus comment sont les rues de Paris. Il la cloîtrait, il était jaloux, et elle était donc cloîtrée dans son petit appartement, attendant l'arrivée du grand homme, copiant ses textes, désespérée parce qu'il ne lui accordait pas assez de temps, ni de caresses d'ailleurs. En 1836, elle lui écrit « Mais baisse-moi donc, j'ai faim et soif de tes caresses ». Et par moments, tout ça est mélangé avec des exclamations sublimes. Toi, tu es un morceau du bon Dieu, sinon le bon Dieu lui-même. Ça, c'est en 1844. Et puis des choses tristes, beaucoup plus tristes. En 1836, je t'aime, je suis jalouse, je m'en veux d'être pauvre et de n'avoir pas de talent. Mais lui est ravi du culte qu'elle lui rend, évidemment. Alors on peut dire, oui, il est tyrannique, effectivement, mais je pense qu'il avait, c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien quand il est jeune, dans les années 20, où il séduit tout le monde, parce que immédiatement il s'impose comme celui autour de qui tout doit tourner, finalement, c'est ça. Et c'est très frappant que ce soit ces petits jeunes gens romantiques autour de lui qui sont fous de lui, que ce soit Juliette, cette pauvre Juliette, que ce soit ses enfants qui le payent cher, ça c'est sûr, et finalement toutes les comédiennes. Enfin, écoutez, quand il rentre d'exil, mais c'est hallucinant. En 1870, les comédiennes qui défilent chez lui, qui toutes veulent jouer le quatrième acte de Marion Delorme et qui donc lui répètent une partie du quatrième acte de Marion Delorme. Il en profite évidemment, mais tout le monde est complètement séduit par cet homme. C'est-à-dire qu'il a un réel charisme, quoi. On peut pas dire autre chose. Donc on peut dire qu'il est tyrannique, oui. Mais je crois qu'en même temps, c'était un homme puissant, c'était un homme attirant. Voilà.
On a des photos de Victor Hugo prises par son fils, Charles.
C'est des photographies ici que nous avons, la plaquette de verre, ici à la bibliothèque. C'est les enfants pauvres. Il y a les 40 enfants pauvres de Victor Hugo.
Ceux qui venaient manger chez lui une fois par semaine.
Oui, il avait commencé avec 8. Et à la fin, il y avait 40 ou même 43 enfants qu'il a reçus chez lui à Hauteville House.
On voit Victor Hugo qui monte l'escalier extérieur de Hauteville House. Les enfants sont au pied de l'escalier. Oui. Les visages se sont un peu effacés, mais on voit...
Ça s'est effacé. Et hélas, beaucoup de ces photos de cette période commencent à s'effacer. Je m'appelle Dinah Bott. Je suis chercheuse et bibliothécaire ici à la bibliothèque Priot à Guernesey.
Au moment justement de cet exil, il y a un nouveau souffle littéraire qui va naître de par l'opposition politique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période de poésie, de l'écriture des pamphlets, de l'écriture des châtiments ?
D'ici, de son exil, il a été pour écrire parce qu'il avait le temps et l'espace pour écrire. Il pouvait regarder tout, observer tout, comme il faisait. Mais aussi, il savait que il peut devenir symbole presque, un symbole de résistance, un symbole de la liberté.
Mais au-delà du 19e siècle, on dit aussi que c'est une figure universelle.
Oui, bien sûr. Maintenant, on peut. Et peut-être un homme qui. Comment dire en anglais, mais son temps revient. Pas seulement à cause de la comédie musicale, mais aussi parce que ce qu'il croyait, les messages qu'il propageait, maintenant, ça paraît très important de nos jours, je dirais. L'asile, l'exil, la pauvreté, et l'éducation, la réhabilitation des prisonniers, toutes ces choses, l'abolition de la peine de mort, évidemment, tout ça.
La liberté d'expression.
La liberté d'expression, en particulier, oui, c'est vrai, la liberté d'expression, oui. Si on peut résumer Victor Hugo, c'est dans une parole, ce serait la liberté. Et pour lui, je crois que la liberté était plus importante que toute autre chose, même sa famille, même sa santé, même tout. C'était la liberté qu'il voulait. Il voulait remporter la victoire de la liberté au-dessus de ses ennemis. Et bien sûr, c'était plus important pour lui de lutter contre la tyrannie et la répression que de rester à Paris.
Taina Bott, il y a aussi un hommage que lui rendent les Cubains.
Ah oui, parce que Victor Hugo a donné son soutien à une rébellion à Cuba. Et après, j'ai lu quelque part qu'il y avait beaucoup de filles à Cuba qui portaient le prénom Cosette au 19e siècle. Et aussi dans l'Amérique du Sud, je crois que Victor Hugo, c'est un prénom masculin très répandu, même aujourd'hui. Il est très populaire aussi aux États-Unis, même aujourd'hui, et c'est à cause de son soutien de la liberté, entière, la liberté du peuple. Que c'est un message qu'il partage aussi aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Victor Hugo et de ses relations avec la couronne britannique, la couronne anglaise?
Il n'aimait pas les têtes couronnées. C'était ce fait qu'il a perdu la bonne volonté de la bourgeoisie guernesiaise parce qu'il a assisté à une pièce. Nous avons ici à Guernesey à ce temps, nous avions un théâtre très petit, mais il y assistait à une représentation. Mais à la fin de la représentation, on a toujours joué l'hymne national et il fallait s'élever, se dresser, et rester debout. Pendant l'âme nationale, Victor Hugo a résolument refusé de s'élever et il a resté assis. C'était un scandale. Il a perdu tous ses amis, ou presque tous les amis qu'il a fait à Guernesey. Il y avait un entourage petit, mais très dévoué, qui lui donnait son soutien absolu.
Il y a certains spécialistes qui disent de Victor Hugo que c'était un agitateur.
Ah oui,
un provocateur.
Bien sûr. On a dit qu'il était un rouge. Il ne faut pas parler avec Touré, il est un rouge. Et aussi, c'est Juliette Drouet, la présence de Juliette Drouet ici à Guernesey.
De Juliette Drouet, oui.
Oui, ça a provoqué aussi un scandale, parce que même si elle était très retenue, on savait très bien qui elle était. On savait très bien qu'elle était sa maîtresse, qu'il avait cette double vie. Et pour Guernesey, en particulier pour la bourgeoisie, et il n'aimait pas beaucoup le comportement de Victor Hugo.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot essentiel pour comprendre Hugo, c'est le mot de liberté. C'est un homme qui a une extraordinaire liberté, sens de la liberté, et qui définit la République précisément comme une liberté démocratique. La République, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas du tout l'édifice, ça n'est pas du tout le monument d'une vérité installée, n'est-ce pas, et de valeurs installées, morales. En un certain sens, si vous voulez, Hugo n'est pas moralisant. Il n'y a pas de morale chez lui, contrairement aux apparences. Je ferai sauter en l'air les gens en disant que l'affreux Thénardier, Dans l'esprit ironique et moqueur de Victor Hugo, et libre de moqueur, en fait, c'est une figure de Victor Hugo, Thénardier, n'est-ce pas ? Car il ressemblait à l'abbé de Lille. Il citait beaucoup Saint-Augustin. Et qu'est-ce que c'est que Saint-Augustin, n'est-ce pas ?
Hugo qui apparaît en filigrane.
Mais oui, et donc Thénardier, c'est aussi une figure de Hugo. Vous savez, du reste, alors vous allez me dire, mais c'est horrible, mais c'est moral. C'est que Thénardier, c'est véritablement la révolte. C'est quand Jean Valjean se retrouve dans le Bouche d'Ondrette, il fait du bien, vous savez, c'est Monsieur Leblanc. Leblanc, bon, il se fait passer pour Monsieur Leblanc. Thénardier dit, ah, véritablement, voilà le philanthrope, n'est-ce pas ? Il y a une dénonciation très violente de la philanthropie bourgeoise, de l'ordre établi. Dans 93, le personnage qui est platonicien, c'est-à-dire qui est pour la ligne droite, qui est pour la géométrie, qui est pour la hiérarchie, qui est pour le temple républicain au sens républicain, c'est Simourdin, c'est-à-dire c'est un fanatique. Et Hugo dit, avec la ligne droite, on tue, n'est-ce pas ? Et avec la ligne droite, on ne va jamais très loin. C'est un homme, si vous voulez, c'est un homme qui n'est jamais chez soi. C'est un homme qui n'est jamais chez lui. Ça n'est pas une vérité qui est enfermée dans un monument, même dans la France. C'est un immigré, en un sens. Hein. C'est un homme qui passe son temps à circuler, si vous voulez. C'est une notion très actuelle. Ça n'est pas de l'opportunisme, n'est-ce pas, ou de la complaisance que de mettre Hugo en rapport avec tout ce qui se passe à notre époque, n'est-ce pas. C'est un homme qui n'est jamais là où il est.
Il aurait été normal qu'il meure en exil. Hein. Il s'y était préparé. Quand il dédie les travailleurs de la mer à l'île de Guernesey qu'il a accueilli, il dit « mon tombeau probable ». Donc il n'est pas sûr de revoir la France. À cette époque-là, on vivait moins longtemps. Il se trouve que l'histoire l'a servi, mais très souvent dans sa vie, il y a comme ça des échos, des coïncidences entre l'histoire de France et sa propre histoire. Mais enfin, ce n'était pas gagné d'avance.
Alors, on est ici dans le jardin du Luxembourg, devant le Sénat. Il y a eu ces discours politiques de Victor Hugo qui, Jean-Marc Ovas, font partie intégrante de l'œuvre.
Il revient au Sénat après une longue période, puisque ensuite il est d'abord... Il devient sous la Deuxième République député, il passe à l'Assemblée nationale. C'est uniquement après l'exil voilà, qu'il rentre au Sénat à la fin de sa vie, hein, vraiment à 76, pour mener sa lutte pour l'amnistie des communards. Ses derniers grands discours politiques, moins connus sans doute que ceux de la Deuxième République, ses derniers grands discours politiques, il les a tenus effectivement au Sénat, là, tout près de là où nous sommes.
Alors, au XIXe siècle, il n'était pas complètement rare d'avoir une carrière littéraire et une carrière politique. Jean-Marc Ovas, est-ce qu'on peut dire que ce projet-là, Victor Hugo l'avait dès ses débuts ? Il avait aussi pour modèle Chateaubriand et Lamartine. Est-ce que c'était dans ses projets, peut-être même à un moment donné, s'il n'y avait pas eu l'exil, d'abandonner la littérature et de devenir un homme politique ?
Il a été un homme politique, mais il n'a jamais voulu souhaiter abandonner la littérature. C'est vrai que parfois on est étonné de cette carrière politique importante sous la Deuxième République, mais elle est préparée très très en amont. Depuis ses premiers textes, il a toujours été passionné par la politique et comme vous le dites, c'est vraiment ses deux grands modèles. Bon, d'abord son dieu qui est Chateaubriand et ensuite son ami et maître, mais surtout ami, qui est Lamartine. Ces deux grandes figures très importantes pour lui sont véritablement des modèles. Des exemples de double carrière. La sienne est un peu différente parce qu'il a mis plus de temps que Lamartine à se lancer dans la politique. Et puis, ses discours... Alors, vous dites qu'il y a beaucoup d'écrivains au XIXe siècle qui ont été à la fois écrivains et hommes politiques. C'est vrai, Hugo se distingue d'eux par la qualité de ses discours. On peut dire qu'il a amené de la littérature dans la politique, mais que dès ses premières œuvres, il y a de la politique dans toutes ses œuvres, et jusqu'à la fin de sa vie.
Vous avez, je crois, dans votre poche un discours, non ? C'est ça ?
Ah oui, bien sûr.
Vous l'avez dans votre poche ?
J'ai dans ma poche, toujours. Je ne sors jamais sans mes discours de Victor Hugo. Celui-là, c'est juste... Il est pas long. Hein. C'est le fameux discours qu'il a prononcé, alors, pas du tout dans une assemblée. Il l'a prononcé après ses 20 ans d'exil. C'était quand même une énorme et sans équivalent et sans exemple. Enfin, il y avait quelques équivalents, mais quasiment sans exemple dans l'histoire de France. Il arrive le jour de la Troisième République, c'est le 4 septembre, et lui, il arrive le lendemain, le 5 septembre, il débarque, alors il raconte qu'il a pris le train du soir pour pas qu'il y ait trop de gens qui l'accueillent ou qui l'attendent, donc pour arriver tranquillement, et en fait, il arrive, il y a quand même la foule à la gare du Nord, puisqu'il arrive de Bruxelles, et là, on lui demande de tenir un discours, et il tient un discours. Alors c'est pas du tout, c'est beaucoup moins lyrique que ces discours de l'Assemblée, parce que c'est un discours sur un quai de la gare du Nord, à peu près, qu'il est tenu. Donc je voulais que je vous le lise.
Oui.
Les paroles me manquent pour dire à quel point m'émeut l'inexprimable accueil que me fait le généreux peuple de Paris. Citoyens, j'avais dit, le jour où la République rentrera, je rentrerai. Me voici. Deux grandes choses m'appellent. La première, la République. La seconde, le danger. Je viens ici faire mon devoir. Quel est mon devoir? C'est le vôtre, c'est celui de tous. Défendre Paris, garder Paris. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Paris est le centre même de l'humanité, Paris est la ville sacrée. Qui attaque Paris, attaque en masse tout le genre humain. Paris est la capitale de la civilisation, qui n'est ni un royaume, ni un empire, et qui est le genre humain tout entier dans son passé et dans son avenir. Et savez-vous pourquoi Paris est la ville de la civilisation? C'est parce que Paris est la ville de la révolution. Donc là, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a répété sans arrêt pendant les 20 ans d'exil, pour ne pas se faire oublier. Il l'a écrit à tous les gens qui lui écrivaient, il l'a dit dans des articles, dans des discours qui ne pouvaient pas être publiés en France, mais qui étaient publiés dans les journaux belges, dans les journaux anglais, dans tous les journaux libres, quelquefois... qui passait quelquefois dans la presse française, mais alors avec des moult précautions, parce que les journaux se faisaient avertir, voire interdire. Enfin, c'était vraiment la reprise, en une page, de tout ce qu'il a proclamé pendant longtemps. Quand il dit, il se cite lui-même, quand il dit « j'avais dit que je reviendrai quand la République serait proclamée », c'est le fameux, la fin des fameux ultima verba de Châtiment, « s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Et puis après, en 59, au moment de l'amnistie, quand il dit « je reviendrai quand la liberté rentrera », « quand la liberté rentrera, je rentrerai », pas avant. Donc il refuse l'amnistie en 59, que Napoléon III décrète pour tous les proscrits, en disant qu'il ne reconnaît pas à Napoléon III le droit de lui permettre de revenir en France, et il dit qu'il ne reviendra pas tant qu'il n'y aura pas la République.
Oui, alors je passe. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abend.
Gérard Audinet, directeur des maisons de Victor Hugo, Paris, Guernesey.
Ici, on est dans la maison de la place des Vosges, qui s'appelait la place Royale, à l'époque de Victor Hugo encore.
Tout à fait, c'était l'époque de la place Royale, une des périodes où il a habité le plus longtemps à Paris, fin 1832 jusqu'à 1848.
Si on saute dans le temps, Gérard Audinet, qu'on arrive à la période d'après l'exil, de retour d'exil, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce retour de Victor Hugo à Paris ? Dans ces lieux parisiens dans lesquels il mène une vie tout à fait différente de celle qu'il a pu mener en exil, dans lesquels il vient aussi fier de son œuvre.
Victor Hugo revient, il est salué comme un héros de la République, de la liberté, de la fidélité à des opinions politiques qu'il a payées de 20 ans d'exil.
Mais il n'est pas dans cette maison quand il rentre.
Non, il rentre. Alors, d'abord, il s'installe chez Paul Meurice. Il va à différents appartements dans le nord de Paris, enfin, du côté de la Nouvelle Athènes. Il rentre à la fin de la guerre de 70, alors que Paris est assiégé. Victor Hugo est un patriote convaincu. Donc, il souffre de voir la France occupée. Il reste le digne fils de son père, le général, qui a si bien défendu Thionville. Et juste après, en 70, il est élu à l'Assemblée nationale. Donc, il doit quitter Paris pour Bordeaux. Et puis, sous la mort brutale de son fils Charles, qui l'oblige à rentrer à Paris pour enterrer son fils Charles, et après à partir à Bruxelles pour régler la succession de son fils, qui laissait beaucoup de dettes. Et donc, Victor Hugo va être absent de Paris pendant la Commune. Il est très partagé face à la Commune, parce qu'il réprouve complètement les excès de la Commune, mais dès que les communards sont vaincus et très durement réprimés, dès qu'il y a cette espèce de terreur blanche, il Il agit avec humanité et dit que lui, il est prêt à accueillir les communards chez lui à Bruxelles, alors que la Belgique a dit officiellement qu'elle refusait de donner l'asile aux communards.
Ça serait son dernier grand combat politique, Charles Rodinet, celle de faire amnestier les communards, qu'il obtiendra très tardivement.
C'est un combat très personnel. Et Victor Hugo va énormément souffrir de la Commune, parce qu'il c'est un second exil, ce qu'on oublie. Parce qu'il est perçu comme un responsable idéologique de la Commune. Et ses proches, ce que pas oublier que Victor Hugo est un patron de presse caché. Officiellement, il n'intervient pas dans le journal créé par ses fils et par Paul Meurice et Auguste Vacry, qui avait été l'événement pendant la révolution de 48 et la Seconde République, qui renaît sous le titre Le Rappel à la fin du Second Empire. Et en fait, l'événement est interdit au moment de la répression de la Commune. Auguste Vacry est recherché. On pense que Meurice est arrêté et relâché. Et Victor Hugo, donc, ses fils ne peuvent pas, son fils, pardon, qui reste François-Victor, serait menacé s'il rentrait à Paris, et que lui aussi peut-être serait menacé s'il rentrait à Paris. Donc c'est pour ça qu'après cet incident diplomatique à Bruxelles où on lance des pierres sur sa maison, il est déclaré persona non grata, il va s'installer au Luxembourg à Vianden, il va rester presque une année, et après il n'est plus tellement la figure consensuelle qu'il a été finalement très brièvement à son retour à Paris. Et il cristallise vraiment très fortement la haine de la droite et du parti catholique et clérical.
Est-ce que finalement, à travers l'épisode de la Commune, qui est le dernier grand épisode politique de Victor Hugo, Gérard Rodinet, est-ce qu'il revit les contradictions de tout son parcours intellectuel politique, à savoir cette tension justement prise entre des origines d'un côté républicaine, de l'autre royaliste, et cette ambiguïté dans laquelle il a évolué. Il connaissait au moment de la Commune autant de gens dans le camp des Versaillais que dans celui des communards.
Il dit « je suis l'homme d'aucun parti », parce qu'il n'a jamais sa place dans un parti. Il n'est jamais pleinement d'accord avec un parti. C'est ce qui fait sa singularité, c'est ce qui fait qu'il est un homme seul et indépendant. Donc, voilà.
On est ici dans la maison de Victor Hugo de la place des Vosges, de la place Royale. Il y a un petit diablotin comme ça en bas du panneau vert, vous vouliez nous en parler ?
Et dans ce petit monstre, il y a une atmosphère, si vous voulez, orientale, et c'est le petit diable, bien évidemment, des contes orientaux, c'est le petit diable dans sa bouteille, qui, en sortant, devient quoi ? Devient l'œuvre entière de Victor Hugo, c'est-à-dire devient une sorte de monstruosité qui va dans tous les sens. Et ce petit diable, c'est dans la bouteille, c'est tout simplement le diable de l'encrier, si vous voulez. Et c'est Victor Hugo lui-même, avec ses jambes qui sont croisées en V et ses bras forment un H. Ses bras croisés avec ses épaules forment un H. Donc c'est une signature, c'est aussi bien l'œuvre tout entière qui est prête à sortir, à exploser. Mais depuis le début de l'œuvre de Victor Hugo, vous avez cette idée d'un diable enfermé dans la bouteille. Et l'écriture, ça veut dire que dès le début, l'écriture, si vous voulez, est quelque chose d'essentiel pour Hugo. Et qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Nous sommes dans un mouvement de vie. Nous sommes dans une vitalité qui implique aussi bien la pensée que le corps, qui implique aussi bien l'histoire que ce qui est hors de l'histoire. Et en ce sens, Victor Hugo est véritablement, je crois, l'image par excellence de cette explosion de l'écriture comme manière pour l'homme de se déployer dans le monde et de dire son déploiement dans le monde.
Jean Morel, quand vous parlez de l'écriture et de tout ce qu'elle révèle et ce qu'elle représente, on a le sentiment que même la politique, c'est une sorte de support, un support artistique, en tout cas un support créatif.
C'est à la fois, l'histoire est à la fois un support et en même temps, c'est un effet de l'écriture. Car l'écriture de Hugo, pourquoi Hugo écrit-il Les Misérables ? Pourquoi écrit-il non seulement Les Misérables, mais aussi bien cette extraordinaire multiplication des déclarations ? Et des interventions, hein, par la parole, par l'image, par le texte, etc. Eh bien, pour Hugo, c'est véritablement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écriture, elle est dans l'histoire, elle fait l'histoire. Elle n'est pas simplement faite par l'histoire, Et je crois que ce serait idiot de dire, n'est-ce pas, que Victor Hugo est inspiré par les phénomènes de son époque et qu'il exprime son époque. Je crois qu'on en crève de ça. Excusez-moi d'être un peu brutal, je ne suis plus un perdreau de l'année, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un adolescent ni un étudiant, je suis un vieil homme qui a travaillé pendant des années sur Victor Hugo, et je suis fatigué, si vous voulez, par l'historicisation de Victor Hugo, par cette biographisation, si vous me permettez, et je crois que l'œuvre de Hugo, c'est véritablement une œuvre en marche, work in progress, une œuvre qui avance avec lui. Tout borde l'homme, mais rien ne l'arrête. Il répond à la limite par l'enjambé. L'impossible est une frontière toujours reculante. Hugo est engagé dans l'histoire. Et il est engagé dans l'histoire non pas simplement par son engagement politique explicite, par ses interventions, ses déclarations, ses choix, ses discours, etc. Et même par les thèmes de ses travaux. Mais par, justement, par son travail de diable de l'encrier, c'est-à-dire par quelque chose, si vous voulez, qu'on lui dénie finalement encore. Et là encore, je suis navré de voir que on ne s'est jamais suffisamment préoccupé de cette espèce de travail de l'écriture profondément chez Victor Hugo, au sens le plus moderne du terme. Je crois que Hugo est un homme qui considère l'écriture comme un travail manuel. Et il y a chez lui une véritable préoccupation de tout ce qui concerne la matérialité de l'écriture. Et si vous voulez, cet intérêt à la matérialité de l'écriture, il y a, en fait, dans toute l'œuvre de Hugo, il y a une extraordinaire mise en scène de l'écriture qui apparaît en souterrain, et en souterrain de tous les textes qui apparemment sont des textes anecdotiques ou des textes ou des récits historiques ou des récits empiriques, n'est-ce pas ? Mais en fait, il y a sans cesse un redoublement, un dédoublement du texte qui fait que la manière d'écrire, le geste d'écrire est présent en permanence dans l'intervention de Victor Hugo et dans son travail. Donc c'est un homme qui, en même temps qu'il dit des choses et qu'il lance des idées ou qu'il répond à des idées, il mobilise son corps tout entier dans l'écriture et il écrit au sens absolu du terme.
On est tout près du Panthéon, l'entrée de la rue Soufflot. Ça a été aussi l'objet d'une réouverture du Panthéon, la panthéonisation de Victor Hugo, ses funérailles dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment est-ce que vous reviendriez sur cet événement, Jean-Marc Ovaz, dont on a dit un peu de tout, qu'il avait semé l'agitation
Mais là aussi, hein, c'était un peu ce à quoi je pensais quand je disais que l'histoire l'avait toujours servi. Il est mort au bon moment. C'est-à-dire que s'il était mort en exil, eh bien, il y aurait eu 5 personnes à son enterrement, ou peut-être 15. Même s'il était mort dans les premières années de son retour en France, disons jusqu'à l'instauration ferme et définitive de la Troisième République, donc il s'est trouvé qu'il a attendu, qu'il est mort vieux, mais qu'il est mort au moment où la Troisième République avait peut-être besoin de cette cérémonie. Et donc, il y aurait eu certainement beaucoup de gens à son enterrement, mais il n'y aurait pas eu cette conjonction de la foule et du gouvernement qui a utilisé cet enterrement aussi pour sceller la Troisième République. Donc, il y a eu ce mélange des deux qui a produit cet événement, comme on n'en a jamais revu, hein, de événement colossal, avec plus d'un million de personnes dans les rues de Paris. On connaît l'histoire, la réouverture du Panthéon, donc c'est le seul à avoir été panthéonisé directement après sa mort. Hein, donc c'est voilà, tout un faisceau de phénomènes qui est formidablement bien tombé, avec en plus cette antithèse suprême, puisqu'il avait demandé le corbillard des pauvres qu'il a eu, avec cet enterrement pharaonique comme on n'en a jamais plus revu.
Jean Morel, Victor Hugo a été panthéonisé, son discours de son retour à Paris du 5 septembre 70 a été lu au moment des attentats de Paris. Il y a cette figure écrasante et monumentale de l'héritage, de ce qu'on a gardé de Victor Hugo et la manière dont il est présenté aux enfants. J'ai observé dans un manuel scolaire, je vais vous dire tout de suite, la présentation qu'on en fait. Cet écrivain et homme politique français, auteur de romans, de poésie et de théâtre, s'est particulièrement intéressé au sort des plus pauvres. Opposant au pouvoir autoritaire de l'empereur Napoléon III, il a passé une grande partie de sa vie en exil dans les îles anglo-normandes. Grande figure française, il est enterré au Panthéon.
Oui, mais ces formules, si vous voulez, bon, elles sont justes, bon, mais elles ne veulent rien dire, parce que on va voir là-dedans une sorte de grand homme qui a pitié des malheureux ou des humbles, n'est-ce pas, du haut de sa hauteur grandiloquente et d'écrivain. C'est une image idéaliste, si vous voulez, idéalisée de l'écrivain, et je crois que ça, c'est, il n'y a rien de plus insupportable que cette image-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous parlais de ce petit diable. Il y a chez Hugo une idée très simple de l'homme, n'est-ce pas? Et non pas une idée monumentale. Et lui-même ne se considère pas du tout comme une figure monumentale, n'est-ce pas? C'est au contraire quelqu'un qui se définit essentiellement comme un marcheur, comme celui qui va. Mais une force qui va, qui se confond avec n'importe qui. Hein, et ces livres sont faits pour tout le monde, mais en même temps pour un tout le monde qui n'a rien à voir avec la vulgarité du nivellement et la vulgarité de la médiocrité. Il y a chez Hugo cette espèce de à l'époque où il écrivait ses romans, cette espèce d'anticipation de l'accès pour tous. Du sens, cette idée de l'ouverture du savoir et de la pensée, etc. Mais il y a cette idée que ce qu'il faut transmettre, ça n'est pas n'importe quoi. Sans doute les hommes ont besoin de s'informer, mais ils ont aussi besoin de se former. Et il y a chez lui une idée très profonde de la culture, n'est-ce pas ? De la culture. Il faut apprendre les choses. Et l'individu et le petit homme, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de savoir tout ce qui s'est passé avant. Il a besoin de l'histoire. Il a besoin du passé. Et, il y a plus de morts que de vivants. Il faut tenir compte des morts. Car les morts ont à nous apprendre. Et Hugo est mort. Et tous ces morts ont à nous apprendre comment nous devons vivre.
Alors finalement, cette caricature républicaine qui est faite, oui, de Victor Hugo, cette caricature de l'héritage, ce n'est pas très grave. Si on regarde en ce moment l'exposition qu'il y a sur les caricatures d'Hugo, il a accepté que toute forme de caricature soit faite sur lui, dans un grand mouvement de liberté justement individuelle et créative, y compris les erreurs. Finalement, cette caricature, c'en est une autre.
Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il est déjà, avant les caricaturistes, il est déjà lui-même caricature de lui-même, n'est-ce pas ? Il n'en finit pas de se caricaturer, de se dédoubler, de se présenter sous des figures absolument contradictoires, apparemment, comme Thénardier, ou comme Barkilphedro, ou comme Handisland, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est qu'Handisland ? Cet effroyable bandit, méchant, etc., une espèce d'ours atroce, sinon Victor Hugo, tout simplement, le jeune Victor Hugo, n'est-ce pas ? Avec sa sauvagerie qui est tout simplement la colère de l'homme exigeant contre les civilisés, c'est-à-dire la provocation contre l'ordre établi.
Hugo a soulevé la robe de l'île. Hugo a soulevé la robe de l'île. Hugo a soufflé les bougies et le toit de mon logis. Oh oui, oh mon amour, que reste-t-il? Hugo a craché sur notre île.
Une vie, une œuvre, Victor Hugo, l'insurgé, un documentaire de Maïlys Bessery et Guillaume Baldi. Avec Anne-Martin Fugier, Jean-Marc Kovas, Gérard Audinet, Jean Morel, Diana Boat, Agnès Perry, Roy Bisson et tous les membres de la Victor Hugo Society. Coordination Christine Bernard, attachée d'émission Pascaline Bonnet, mixage Alain Joubert.
Combien sur l'île il avait plu? Oh, oh mon amour, que reste-t-il? Hugo a craché sur notre île.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture aime et soutient le spectacle vivant, la création et les scènes nationales. Ce dimanche, le coup de fil d'une saison au théâtre de Joël Gayot à Ludovic Rougeau, directeur de la scène nationale de Dunkerque. Cirque, cinéma, musique, opéra, théâtre, théâtre d'objets, de Cyrano à l'opéra de Katsu, d'un hommage à Merz Cunningham à Gainsbourg for Kids, Ludovic Rougeau nous présentera les temps forts de la saison. L'actualité des arts vivants, chaque dimanche, dans une saison au théâtre à 15h30 et sur franceculture.fr.